à toutes et bienvenue sur les émissions estivales d'Overbooké. Aujourd'hui, on est très heureuse de vous accueillir donc sur le 87.7 sur Radio Campus. Et je ne suis pas seule aujourd'hui pour l'émission. J'ai l'honneur d'accueillir Anna.
Bonjour.
Bonjour Anna. Donc du coup, qu'on a découverte à l'émission de juin sur le thème de l'antispécisme. Et donc aujourd'hui, elle va continuer sur une chronique sur ce sujet. Donc merci beaucoup. On a aussi Margot.
Bonjour.
Bonjour Margot, du coup, qui vous avez aussi découverte sur l'émission de juin, qui va nous parler de nouveau de la PMA, mais sous une autre forme. Je vous laisserai découvrir plus tard. J'ai aussi Estelle. Salut Estelle.
Salut.
Du coup, que vous découvrez tout le temps. Voilà. Donc, on est toujours très heureuse de l'avoir avec nous et qui va faire une lecture d'un livre qu'elle vous présentera tout à l'heure. On a aussi l'incroyable Angélique.
Bonjour.
Que vous connaissez aussi depuis longtemps pour ses superbes chroniques.
Bah ouais, j'ai l'impression qu'on s'est vu hier. Et...
Ah ouais.
Ça fait déjà un mois hein, depuis Overbooké.
Ouais, ça fait long.
Le
hein.
Juin.
Carrément.
Incroyable.
Ça vient en plus.
Ouais, ouais. Et du coup, on est vraiment trop contente de la retrouver. Donc, il va nous parler dans une chronique. J'ai oublié le thème, mais elle vous le redira tout à l'heure en fin d'émission.
Je ne spoil pas.
Voilà, exactement. Et j'ai aussi la merveilleuse Hélène.
Bonjour.
Qui est là donc, pour nous parler d'une chronique dont j'ai aussi oublié le thème. Décidément, c'est le pire lancement de l'humanité.
Alors, c'est tout à fait faux, parce que en fait, je ne fais pas de chronique dans cette émission. Mais je suis quand même ravie de participer à l'animation de cette émission. Et justement, je vais laisser la parole à Anna, qui est venue nous parler aujourd'hui du lien entre l'antispécisme et le féminisme.
Alors, je vais vous lire un texte posté le 8 mars 2018 par Anissa P. sur le site de PETA. En cette journée internationale des droits des femmes, exigeons... Non. En cette journée internationale des droits des femmes, engageons-nous à lutter contre la souffrance de tous les êtres de sexe féminin, peu importe l'espèce à laquelle elles appartiennent. Cela peut surprendre, mais le respect des femmes et le respect des animaux sont étroitement liés. Ces deux mouvements sont basés sur une opposition à un système qui favorise les intérêts de certains au détriment des autres, contre toute logique rationnelle, scientifique et morale. Le féminisme consiste à lutter contre la manière dont certains êtres sont exploités au profit d'êtres supérieurs arbitrairement désignés. Ainsi, les féministes doivent, en toute logique, rejeter l'exploitation animale. Comme c'est le cas pour les femmes, la vulnérabilité perçue des animaux est utilisée comme justification implicite de leur exploitation. Il est bien évidemment inadmissible de considérer les femmes comme de simples morceaux de viande. Alors pourquoi accepter que la même objectification ait lieu dans le cas d'êtres intelligents et sensibles pour aucune autre raison que le fait que ces individus soient des vaches ou détruits ? Il devient ainsi clair qu'une personne féministe qui mange un steak n'agit pas sur les principes d'égalité qu'elle soutient. Le fait de consommer des animaux et leurs sécrétions ne peut s'inscrire dans une véritable ligne féministe. En effet, comment lutter pour les droits reproductifs des femmes tout en ignorant et même soutenant l'exploitation des organes reproducteurs des vaches et des poules? La production de viande, de lait et d'œufs est basée sur l'exploitation du système reproducteur féminin et des actes qui seraient qualifiés de meurtre, de torture, de viol et d'esclavage si on les faisait subir à des femmes. Étonnamment, la plupart des gens, féministes inclus, ne réalisent pas qu'une vache doit accoucher d'un veau pour produire du lait. Encore moins savent que les vaches dans l'industrie laitière sont inséminées de force et à répétition dans une étroite stalle grillagée appelée cage de contention, un acte qui s'apparente à une violence sexuelle, pour que chaque veau leur soit retiré et que le lait leur étant destiné soit approprié et vendu aux consommateurs. Lorsque leurs corps épuisés ne produisent plus assez de lait, elles sont transportées vers l'abattoir. Certaines sont encore gestantes. Toutes les exploitations laitières, même celles certifiées du label bio, plein air ou bien-être supérieur, tirent profit des pires actes que l'on peut faire subir à des femmes et à des mères. Les consommateurs de produits laitiers participent à ces pratiques à travers leurs achats. Réalisons qu'il n'y a aucune différence tangible entre une vache et une mère humaine en ce qui concerne leur détresse lorsque leurs petits leur sont arrachés, la douleur ressentie lorsqu'une insémination forcée ou l'intérêt qu'elles ont à vivre sans souffrance. L'industrie de la viande exploite aussi des femelles. Prenons la production de porc. Les truies sont également inséminées artificiellement 2 fois par an et sont contraintes à passer au moins 5 semaines de leur gestation dans des cases de gestation, des stalles métalliques si étroites qu'elles ne peuvent même pas s'y retourner. Puis elles sont placées dans des cages de mise bas, sans litière, dans lesquelles elles ne peuvent ni bouger, ni véritablement interagir avec leur progéniture. Après environ 3 semaines, leurs porcelets leur sont enlevés et le cycle infernal recommence. continuant pendant 3 ou 4 ans, jusqu'à ce qu'elles soient à leur tour envoyées à l'abattoir, se faire égorger de manière violente et terrifiante. C'est cela que l'on soutient quand on achète du jambon, des lardons ou des côtes de porc. Quant aux poules, elles sont ébéquées sans traitement antidouleur et vivent parquées par dizaines dans de minuscules cages forcées de se tenir sur le sol en treillis métalliques, jonchées de leurs propres excréments et des cadavres de leurs congénères qui n'ont pas survécu à ces conditions abominables. On transporte les survivantes vers l'abattoir et les suspend à l'envers, leur tranche la gorge ou on les ébouillante vivantes dans des bassins de déplumage. Les poules sont génétiquement manipulées pour produire une quantité non naturelle d'œufs, ce qui entraîne de graves problèmes de santé, comme un déficit de calcium, des prolapsus de l'utérus et des infections. Bien entendu, les animaux mâles souffrent aussi dans ces industries, mais les femelles subissent souvent une plus longue période de maltraitance, ainsi que la violence émotionnelle de la séparation avec leurs petits. Heureusement, de plus en plus de féministes et de militantes pour la justice sociale comprennent que l'apathie envers la violence n'a pas sa place dans un mouvement qui lutte pour l'égalité et inclut donc les droits des animaux dans leur combat. Célébrons toutes et tous la journée des droits de la femme en nous engageant à ne pas consommer les produits issus de la souffrance des animaux femelles exploités pour la nourriture.
Merci Anna.
De rien.
Alors bah oui, il nous paraît plus évident le lien entre féminisme et antispécisme, après ce que tu viens de nous raconter. Moi j'avais compris aussi un lien entre écoféminisme et antispécisme. Je vois que tu fais la grimace, il est complètement inopérant ce lien.
Je sais pas, en tout cas je vais avoir du mal à parler d'écoféminisme, je connais pas très bien ce sujet.
Ça va, je croyais que tu disais non, c'est n'importe quoi.
Si, mais voilà, je vais avoir des difficultés.
Il y a l'idée dans l'écoféminisme qu'on exploite, en fait, on se donne le droit d'exploiter en fait, des choses qui nous appartiennent pas, que ce soit du coup aussi bien les animaux que les sols, par exemple, etc., sans considération pour les conséquences que ça peut avoir. Donc, pour les animaux, donc pour les êtres sentients, et dans l'écoféminisme plus largement aussi pour l'ensemble en fait du vivant, quoi.
Ouais, donc ça fait totalement sens, ouais.
Ouais, en tout cas merci beaucoup, et est-ce que tu peux de nouveau nous redonner la référence du livre que tu nous as lu, parce que là ça fait un mois et du coup je pense que les gens s'en souviennent pas forcément, du coup si tu veux bien nous le rappeler.
Alors en fait c'est pas basé sur le même livre que le mois de juin, c'est okay. Vraiment un post posté sur le site de la PETA, qui est une association animaliste, et donc ça a été posté le 8 mars 2018 par Anissa P.
Ok, super.
Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette idée, c'est que souvent on entend des personnes vanter le régime végétarien et du coup consomment des produits laitiers ou des œufs, etc. Et puis se rendent pas forcément compte qu'en fait, parfois, les animaux qui sont élevés pour leur sécrétion, finalement, ils souffrent quasiment plus que les animaux
d'autant
qui
plus.
Sont élevés pour leur viande. Et du coup, ça aide pas tant que ça. Enfin, pas en tout cas pour la souffrance animale, même si peut-être effectivement ça aide pour ce qui est de l'environnement, certainement.
Ok, donc merci beaucoup pour cette chronique. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui aimerait rajouter quelque chose, poser des questions sur ce genre de choses ?
Moi, c'est une vraie découverte. Enfin voilà, je découvre avec Anna, et du coup, merci beaucoup pour ça.
De rien. Moi, c'est vrai que dès que je lis les conditions inacceptables de ces animaux... j'ai presque les larmes aux yeux à chaque fois, donc c'est ça me touche beaucoup.
Ouais, ça s'est senti dans ta voix. Et du coup, on peut aussi rappeler que pour toutes les personnes, Damien, qui veulent rechercher des alternatives, elles peuvent venir auprès de toi, donc dans ton magasin Vivani près de la cathédrale, ou rien que pour discuter avec toi ce genre de choses et voir un petit peu les alternatives qui peuvent exister en termes de produits, d'alimentation et pour tout ce qui est soins et beauté. Voilà. Tu me dis si j'ai des bêtises, mais...
Non, c'est ça, merci.
Ok, super. Du coup, maintenant, on va laisser la parole à Margot, qui, je crois, a un poème
c'est ça.
À nous lire. Donc, on te laisse la place et merci.
Merci à vous. Ma maman parmi toutes. Ma maman est une femme exceptionnelle. Si j'avais eu le choix, je n'aurais voulu qu'elle, car son amour pour moi est inconditionnel, qu'elle soit seule avec lui ou avec elle. Pendant des années, cette fille m'a rêvé désirée. Durant des mois, cette femme m'a portée et bercée. À jamais, elle saura m'accompagner et m'élever. Pour toujours, ma maman va m'aimer. Ma maman est bifacette. Elle a deux côtés. C'est une femme parmi toutes qui mérite la liberté et c'est une mère parmi toutes qui mérite le respect. Mais j'oubliais. C'est surtout une personne qui mérite d'être aimée. Alors pourquoi vous permettre de la juger ? Devenir parent ne devrait être conditionné par un décret, qu'elle vive seule, accompagnée ou mariée, et peu importe qui elle souhaite aimer. Du fond de son cœur, maman m'a d'abord voulu. Dans son ventre, maman m'a ensuite contenue. Dès ma naissance, ses bras m'ont porté. De ses proches, maman m'a aussi entourée. Plus que quiconque, maman a pensé ce projet, tant attendu qu'au monde je puisse venir. Plus que quiconque, maman l'a préparé, tant espéré que le monde réussisse à la soutenir. Ma maman s'est permise de rêver. Elle s'est battue pour que cela devienne réalité. Au XXIe siècle, fini les préjugés. Chaque personne doit pouvoir enfanter. Maman a décidé qu'elle procréerait et que je vivrais, même si pour cela elle devait aller à l'étranger. À présent, mon bonheur est sa priorité. Regardez comme je suis aimée, élevée et en bonne santé.
Wow. Merci beaucoup pour ce poème qui, donc, du coup, qui fait aussi suite un petit peu à ta chronique de l'émission du mois dernier. Donc, superbe.
Merci, c'est gentil.
Alors, j'imagine que ce poème, du coup, c'est un poème qui pourrait être dit peut-être par un enfant issu de PMA, Margot ?
C'est ça. Bah, en fait, j'ai voulu me placer d'un point de vue enfant, notamment par rapport à plusieurs reportages que j'avais vus où justement la parole était donnée aux enfants nés de PMA ou de GPA. Et je trouvais que c'était intéressant de donner de façon virtuelle, entre guillemets, la parole à l'enfant. Et voilà. Parce que pour ce qui ressortait beaucoup de des témoignages des enfants nés de procréation médicalement assistée, c'était que eux, c'était leur normalité et que leur bonheur n'en était pas moins important et qu'ils étaient on ne peut plus aimés, on ne peut plus en bonne santé, on ne peut plus choyés par leur famille et voilà.
Oui, parce qu'on oublie souvent de faire remarquer que ça, le bonheur des enfants, en fait, il dépend pas forcément de la composition du foyer dans lequel ils ont été élevés, hein, et leur malheur non plus, d'ailleurs, hélas. Donc, ça fait du bien de le rappeler. Merci, Margot.
Merci à vous.
Merci.
Donc, c'est souvent des arguments qui sont repris par les personnes qui sont contre ce genre de choses, aussi bien la manif pour tous, etc., pour que ce soit les couples avec un seul parent, ou deux parents, ou trois parents, ou quatre parents. C'est si vous n'avez pas un papa et une maman, vous serez malheureux. Et heureusement, il y a énormément d'exemples qui montrent le contraire, et beaucoup d'exemples qui montrent qu'avec un papa et une maman, on peut être extrêmement malheureux et malheureuse. Donc, merci pour cet argument qui n'a aucun fondement, la manif pour tous. On vous embrasse.
Voilà. Allez, bisous.
Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ? Dans ces cas-là, Margot, je vais pouvoir te laisser faire le lancement de la prochaine musique.
Alors du coup, on va écouter une musique de Pomme. On en avait déjà parlé la dernière fois, il me semble, dans la chronique de juin, enfin dans l'émission, pardon. Du coup, c'est une musique qui fait pas mal écho à ma situation, qui s'appelle Grandiose, où en fait, elle évoque son désir d'avoir un enfant, un désir qui est pour elle depuis qu'elle est enfant, depuis toute petite, et ce conflit interne entre le fait de vouloir un enfant, mais de se dire est-ce que c'est bien judicieux de faire venir un enfant dans cette société, dans le monde dans lequel nous vivons. Comment mon enfant va vivre mon homosexualité, comment la société va accueillir cet enfant que je désire. Et lors d'une interview, Pomme disait que, de toute façon, au-delà de l'homosexualité ou pas, c'était aussi une question que quiconque de se poser sûrement dans la société actuelle, de savoir si ou pas il était bien raisonnable de vouloir un enfant étant donné la société actuelle. Donc voilà, donc on va écouter Grandiose de Pomme.
Bonne écoute.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Je veux un enfant avant de connaître l'amour, l'amour qui déborde de moi, qui dit tu n'es pas comme les autres. Des filles prendront ton cœur à toi, bats-toi, t'auras une vie grandiose, grandiose. Du terre parfois, l'envie si grande et menaçante. Depuis les cloches assourdissantes, le gris de l'église de fond rose, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose.
Et voilà, c'était Pomme, elle est vraiment trop chouette cette chanson. Merci Margot de nous l'avoir proposée. Tout de suite, on va écouter Estelle qui nous fait la lecture d'un texte qui s'appelle Sororité, je crois.
Du coup, oui, en effet, je vais vous lire un petit extrait du bouquin qui s'appelle Sororité, qui a été écrit collectivement par plein de meufs hyper badass. Et du coup, dirigé par Chloé Delhomme. Et, je vais vous lire un extrait du texte de Fatima Wasak. Qu'on adore. Fatima Wasak, c'est une politologue et cofondatrice du Front de mer. Voilà, entre autres, pour une présentation très courte. Je vais tenter de vous lire ça correctement.
Avec une voix de loveuse.
Hey. je sais pas faire comme vous. Hein. Alors, protégeons nos enfants ensemble. Quelques chiffres à propos de nos enfants, car les chiffres disent le système de domination. Ils disent qu'on n'est pas seul, que c'est politique, que c'est structurel. Ils disent qu'il ne faut pas le prendre pour soi, que ce n'est pas nous le problème, que ce n'est pas une punition divine. Les chiffres disent que c'est un fonctionnement, et un fonctionnement, ça peut se comprendre. On peut lutter contre un fonctionnement, ça peut se changer. Voici donc ces chiffres amis. En France, aujourd'hui, une fille sur cinq est victime d'agressions sexuelles, un garçon sur 13. Nos enfants sont violés, nos fils surtout, nos fils aussi. Toutes les classes sociales et tous les milieux sont concernés. Le violeur d'enfants, c'est tel médecin, tel ouvrier, tel professeur, tel boulanger, tel ministre, tel cinéaste, tel juge, telle personne qui n'a pas d'activité salariée, tel retraité, tel étudiant. Nos enfants à toutes sont potentiellement concernés. Que l'on soit mère ou pas, on a souvent le sentiment que les enfants sont épargnés, qu'elles et ils sont protégés par la collectivité. On a cette idée aussi que les hommes vont avoir pitié des enfants. En réalité, ce sont les enfants qui subissent la majorité des agressions sexuelles. Certes, on reconnaît de plus en plus que la plupart des viols n'ont pas lieu la nuit par un inconnu dans un parking. On commence à reconnaître que le violeur peut faire partie de l'entourage proche et qu'il opère souvent dans la chaleur affective du foyer. Le père, l'ami de la famille, le cousin, le grand-père, le beau-père, le voisin, l'oncle. Mais quand reconnaîtra-t-on que l'on désenfantise les victimes de viols, que la plupart du temps la personne violée n'est pas un ou une adulte, mais un ou une enfant ? Et si nos enfants étaient violés parce qu'on ne les protégeait pas assez? Silence et on regarde ailleurs. À cet égard, la société est répugnante. Si on devait rendre des comptes à nos enfants, comment nous jugeraient-elles? Comment nous jugeraient-ils? Elles et eux, à qui on confisque au prétexte que ce sont des enfants, l'essentiel de leurs droits politiques et de leurs libertés fondamentales, les plaçant sous notre responsabilité d'adultes. Quelle escroquerie, puisqu'on ne les protège pas. N'est-ce pas parce qu'on a peur, on n'a pas de compte à leur rendre, qu'on est si indifférent à leur sort? On dépossède nos filles de leur liberté de circuler seules, notamment la nuit. Nos garçons qui vivent dans les quartiers populaires en sont privés également. Les agressions sexuelles de la part de policiers lors des contrôles aux faciès, courantes, participent à entraver leur droit de circuler librement. Les mères retiennent leurs enfants par la manche. Ne sors pas, c'est dangereux. La menace d'une agression sexuelle est une arme pour assigner à résidence, chassée de l'espace public et donc de l'espace politique. Face à cet état de fait, nous les mères, nous n'avons plus le choix. Il est de notre devoir de protéger nos enfants, ensemble. Car seul, évidemment, on ne peut rien. Seul, on est condamné à calmer le jeu, à être une mère tampon qui contient ses enfants, les calme, les encourage à se taire. Chut, c'est impossible. Chut, tu mens. Chut, ce n'est pas grave. Chut, je te dis, tu n'as pas honte. En revanche, si nous nous réunissons et nous organisons politiquement pour protéger nos enfants, le feu, la sororité, la nécessité de faire bloc, devient dès lors un outil stratégique d'une puissance infinie. Les mères sont une force politique et stratégique dont le féminisme est offensif enflammé. Créons partout des collectifs de mères, un front de mères puissant qui prennent le pouvoir et considèrent nos enfants en tant que sujets politiques à part entière, pour qu'elles et ils puissent exercer leurs droits politiques et leurs libertés fondamentales. Construisons ensemble, mères et enfants, un réel projet d'émancipation.
Merci Estelle. C'est un sujet vraiment polémique, pour le coup, le droit des enfants. Notamment dans le féminisme, c'est pas toujours très bien entendu, parce qu'on n'a pas du tout envie de se reconnaître quand on lutte contre les inégalités comme des oppresseurs ou des oppresseuses. Et pourtant, c'est bien comme ça qu'on se conduit avec nos enfants, effectivement, en pensant qu'ils ne sont pas vraiment des sujets de droit notamment.
Alors qu'ils ont tout à fait tous leurs droits, et enfin, ils vivent tout autant des oppressions que d'autres personnes. Et petit like aussi sur ce bouquin, qui c'est un des premiers bouquins que j'ai lu qui est en écriture inclusive. Bon, c'est difficile de le lire après, enfin voilà, de tout dire comme c'est écrit, mais voilà, petit big up aussi pour ce clin d'œil qui est hyper important.
Merci. Au passage, je rebondis encore sur cette idée de droit des enfants, là, parce que ça me rappelle cette période où le Conseil de l'Europe avait taclé la France sur notre juridiction. On n'interdisait pas les violences à l'égard des enfants, et puis pendant un moment, ils nous ont demandé de légiférer contre la fessée. Et notre cher Bruno Le Maire, qu'on adore, encore un vieux mâle blanc... Bon. Bisous, hein.
Qui a mal à
Bruno. Et du coup, il s'était exclamé « Ah, mais l'Europe, elle a pas quelque chose de mieux à faire que de venir légiférer sur ce qui se passe dans nos foyers, en fait. On éduque nos enfants comme on veut, et moi j'ai 4 enfants, et je les ai éduqués correctement, etc. » Donc il y a cette idée qu'une fois qu'on a passé la porte du foyer, en fait, le droit n'a plus sa place. Et c'était une idée qui était aussi courante à l'époque où on pouvait violenter, c'est toujours le cas, mais... disons que ça fait scandale, violenter les femmes et les épouses, il y avait déjà cet argument de dire, mais une fois que j'ai passé la porte de mon foyer, en fait, je fais ce que je veux, comme si le droit n'avait pas droit de cité, justement, dans les foyers. Et c'est encore le cas pour les enfants.
Yes. Merci d'avoir répondu. Tu rebondis très bien. Désolée, c'était pas très fun, mais voilà.
Non, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui aimerait rajouter quelque chose par rapport à cette lecture? Dans ce cas-là, est-ce que tu peux peut-être juste nous redire le titre du livre pour celles qui l'ont loupé en début de chronique?
Carrément. Du coup, c'est Sororité, qui a été écrit collectivement et dirigé par Chloé Delhomme, voilà, qui a écrit des super bouquins. Je peux vous dire vite fait qui a écrit dans ce bouquin, si vous êtes intéressé. Il y a du coup Fatima Wassak, il y a Alice Coffin, Ovidie, Jeanne Chéral... Voilà, plein de personnalités complètement différentes, et c'est ça qui est super intéressant, parce qu'elles n'ont pas du tout la même manière d'écrire, et en fait elles parlent toutes de sororité à leur sauce, en fait, et ça a beaucoup résonné en moi, en tout cas, par rapport à ce que je vis aussi chez les Bavardes, et voilà, j'ai beaucoup pensé à vous.
Trop intéressant, donc pour celles qui peuvent, lisez-le, et faites-nous un retour si vous le souhaitez.
Carrément, et les Bavardes ont ce bouquin, donc si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, vous pouvez très bien l'emprunter aussi au sein de l'asso.
C'est la question que je voulais poser, s'il y avait une bibliothèque en fait auprès des Bavardes.
Ouais. Dès qu'on aura un local, on mettra à disposition du coup les bouquins, mais là en fait vous avez juste à nous envoyer un message sur les réseaux sociaux et puis si on peut se voir pour emprunter le bouquin, il n'y a aucun problème, avec plaisir justement.
Ok, super.
Super, merci beaucoup. Et du coup, donc là, c'est une émission courte pour le mois de juillet. Donc, nous arrivons déjà à la dernière chronique. Angélique, si tu veux bien nous offrir cela.
C'est à moi. Il fait beau, il fait chaud en ce moment. C'est le retour des jupes et des robes, des shorts aussi. Non pas parce qu'on veut plaire aux mecs dans la rue, mais parce qu'il fait chaud et éventuellement parce qu'on a envie de se plaire à nous-mêmes. Et ça, les hommes ont du mal à comprendre. À 3 reprises la semaine dernière, on m'a regardé de manière salace. Je voulais pendant un bref instant vous expliquer comment j'étais habillée, mais en fait, ça n'en vaut pas la peine. Une fois dans le bus, un regard insistant et un sourire de pervers, plus je vieillis, plus j'ai le courage de répondre. Je prends ma grosse voix, la plus forte, sans crier, et je lui dis « Faut arrêter de regarder les filles comme ça, monsieur, ça m'est mal à l'aise. » Et bah croyez-moi ou pas, il m'a plus jamais regardé pendant tout le reste du trajet. Une autre fois sur un parking, ils étaient 2. Un me regarde avec insistance, je l'envoie promener, mais comme ils étaient 2, les filles de groupe, ils ont rigolé. Non pas que ma manière de les remettre en place était drôle, mais ils ont ri à mon nez pour appuyer leur dominance. Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, c'est un peu ce qu'ils sous-entendaient. Mais c'est pas grave, leur répondre me donne du courage, me rend plus forte. Je me dis que si j'ai assez de culot et d'éloquence pour répondre à ce genre de mec, j'aurai peut-être le charisme pour décrocher mon prochain entretien d'embauche. Et le 3e de la semaine m'a suivi dans le magasin quand je faisais mes courses, essayant de se cacher derrière les poêlés de légumes congelés. J'avoue, ce jour-là, j'ai eu la flemme de répondre et j'ai pas répondu du coup, mais je regrette. En fait, en 2020, un sondage Ipsos révèle que 81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics. Alors, pourquoi les hommes harcèlent-ils? Pour cela, j'ai survolé le mémoire de Camille Couster, « Rendons à César ce qui est à César ». Elle dit ainsi que les hommes sont plus enclins à harceler quand ils sont en bande. C'est un moyen de fraternisation virile, c'est un moyen de prouver leur virilité et leur appartenance au groupe. Et ça leur permet aussi de construire leur masculinité. Le harcèlement de rue est une forme de rite qui permet aux hommes de se prouver leur virilité en dominant les femmes, en leur faisant peur ou en les humiliant. C'est tout à fait cohérent avec mon second exemple personnel, par exemple. Le harcèlement de rue, c'est le moyen de maintenir la domination des hommes sur les femmes. Dans son mémoire, Camille ajoute « Nombreux sont les hommes interrogés qui trouvent ce comportement amusant ou pensent que ça ne fait mal à personne. Ils pensent que cela sera pris comme un compliment et que la situation était inversée, ils seraient flattés. » Je ne vais pas vous faire tout son mémoire, j'aurai pas assez de temps d'une seule chronique. Mais pour finir, il y a 3 tips pour répondre au harcèlement de rue. Les miens. Un bon gros fuck, ça marche bien. Je vous ai rien demandé, répétez inlassablement à l'interlocuteur. Ou un trait d'humour. Vous le regardez de haut en bas et vous dites « Mais t'as vu ta gueule, c'est mort. » J'ai déjà fait, je vous jure, c'est risible. Ne faites ça que si vous vous en sentez capable et dans un endroit safe. Et n'oubliez pas, vous êtes incroyable.
Voilà.
Merci Angélique.
Merci pour ces conseils.
Merci, merci beaucoup.
Ah, ils étaient bien mes conseils.
Ah, mais carrément.
Il faut les appliquer si on s'en sent le courage, mais ils étaient bien.
Ça me fait penser, la dernière fois, quand on a voulu enregistrer l'émission. Bref, petite histoire vite fait. On s'est un peu pris la tête avec un vieux mec.
Légèrement.
Enfin, légèrement.
Il n'était pas vieux,
mais c'est un vieux gars quand même. et du coup, à un moment donné, puisqu'en fait, il insiste auprès d'une meuf, et on l'a regardé, on dit, mais en fait, juste, elle t'a dit non, et tu vois pas, c'est très malsain, en fait, ce qui se passe. Du coup, il n'a pas kiffé du tout qu'on intervienne. Et en fait, à un moment donné, dans la discussion, il a dû étaler le fait qu'il gagne beaucoup par mois. Et en fait, à un moment donné, il m'a fait une réflexion en mode « Mais t'as vu comment t'es habillée ? Toi, tu t'habilles avec des trucs à 20 balles. » Mais en fait, je vois pas... Je l'ai regardé, je dis « Mais en fait, je m'habille pas pour te plaire, donc juste ferme-la. » Et enfin bref, et du coup, ça me... Ouais, c'est toujours ce truc où il faut qu'on s'habille pour leur plaire. Ou pour pouvoir parler avec eux. Enfin, je sais pas, c'est... Non.
Ou pour les exciter.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr, t'as mis une robe, c'était pour m'exciter moi, perso. Ouais. Bah oui, bah bien sûr, évidemment.
Je savais que j'allais te croiser.
Bien sûr.
En fait, je suis devin.
J'ai mis ta couleur préférée aujourd'hui, exprès pour toi, connard. Bah oui.
Il y a aussi surtout le fait qu'en fait, tout revient en physique, quoi. Il n'y a tellement aucun argument derrière, c'est que en fait, t'as une sale gueule, ça revient tout de suite, quoi. C'est-à-dire que en fait, toi, je t'ai pas parlé parce que t'es personne, toi, je t'ai pas parlé parce que t'es mal habillée, toi, je t'ai pas parlé parce que tu me plais pas. En fait, arrête d'être jalouse parce que j'ai abordé l'autre nana. C'est souvent des arguments qui reviennent à la con, et en fait, on remarque une seule chose, c'est que ça parle uniquement sur le physique, pendant que nous, on essaye d'avoir des arguments réels en mode, mais en fait, juste, tu comprends ce que c'est le consentement, tu comprends ce que c'est le respect de la personne et tout, et le mec, il est là, ta gueule, t'es mal habillée. Merci, ouais, bonne journée,
puis,
au revoir.
Et puis je gagne mieux que toi, et en fait t'es qu'une meuf et moi je suis mieux. Enfin, genre en fait, non. Enfin, bref, et puis sa question, enfin sa meilleure répartie quand même pendant 20 minutes de discussion, enfin d'essayer de discuter avec lui en tout cas, c'était mais t'es qui toi ? Bah, et toi t'es qui ?
Ce à quoi elle répond, moi je suis moi. Oui, bah moi aussi je suis moi, on peut passer à autre chose maintenant ou il y a un truc ?
Tu tournes en rond, mon gars. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite anecdote.
Ce qui était beau aussi à voir, c'est que en fait, c'était le seul à s'énerver et que ses copains ne sont même pas rentrés là-dedans. Et c'était plus en mode, il est con, voilà.
Puis la meuf qui est venue nous aider, qui était à la terrasse en face, qui lui dire, en fait, genre mec, t'arrêtes de leur dire, t'es qui toi, parce que c'est un manque de respect. Enfin, genre, ça c'était trop bien.
Big up à elle,
carrément. Michel, merci Michel, si tu nous écoutes.
Ouais, bah dans le harcèlement de rue, il y a cette histoire aussi de penser, et c'est pas forcément que dans la rue d'ailleurs, les hommes, ils ont quand même tendance à penser qu'ils sont le centre du monde et que tout est fait pour eux. Donc, tout est fait pour leur regard et tout est fait.
Oh là là.
Et évidemment, on a besoin de leur validation. Le monde entier a besoin d'être validé par un homme pour exister.
Par leur nombril.
Du coup, évidemment, ça va avec le harcèlement de rue, quoi.
Tous ces bofs en ce moment-là qui fait chaud, tous ces bofs en terrasse, là, qui commentent toutes les nanas qui passent, là, avec leurs petits commentaires salaces, là. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je me sens tout le temps jugée.
Avec leurs gestes obscènes qu'ils font avec. Et d'ailleurs, Angélique, je trouve que tu as une très belle chemise aujourd'hui.
Merci. Merci.
Très estivale, comme notre émission.
Carrément.
Sans compter, je pourrais ajouter encore un truc sur le harcèlement de rue, pardon, je reviens dessus, mais il y a aussi cette idée derrière que du coup, l'espace public, il n'est pas fait pour les femmes, ça exclut les femmes de l'espace public et ça les exclut du coup... À la fois, l'espace public, c'est aussi un endroit politique, quoi. Et du coup, c'est encore une manière d'exercer leur domination et de nous exclure, voilà, de tous les espaces.
Je ne fais pas ça, mais il paraît qu'il y a des femmes qui s'habillent en fonction de l'endroit où ils vont dans la rue.
Ouais.
Incroyable.
Ouais.
Moi, il y a des quartiers, il y a des endroits que j'évite, mais je ne choisis pas ma tenue en fonction de...
Je l'ai longtemps
incroyable.
Fait.
Incroyable.
Pendant longtemps, je l'ai fait, et grâce au bavard, je me suis un peu émancipée de ça, mais quand je savais que j'allais me balader en centre-ville à 7h quand il faisait nuit, je mettais des longs manteaux, parce que du coup, il faisait tôt nuit, donc... Ouais, bref, on s'en fout. Et du coup, je
faisais nuit tôt.
Ouais, merci.
Ah oui, ouais.
Et du coup, je m'habillais pour éviter qu'on voit mes formes, en fait. Et même, je prenais une démarche dite masculine. Pour éviter qu'on m'identifie en tant que meuf. Hein,
approuver, ça marche trop bien.
Ouais. Mais c'est dommage, du coup, d'en venir là.
Oui, c'est dommage.
Ma fille, elle fait ça, elle a 15 ans, et elle et ses copines, par exemple, quand elles doivent prendre le bus, elles font bien attention de ne pas être en short. Elle est déjà rentrée à la maison pour mettre un jean avant d'aller prendre le bus.
L'angoisse.
Ouais, je me souviens, ado aussi, j'avais des stratégies, hein, comme ça, à l'arrêt de bus, de bien se mettre sous la lumière pour être visible, de faire attention à plein de choses comme ça, ouais, clairement.
Il y a un autre conseil qui fonctionne bien que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est si t'as un mec qui t'emmerde, tu lui pètes dessus. Apparemment, ça les écarte.
Ou alors les comportements complètement débiles, se mettre crier. À courir, crier, hurler, faire une tête de débile.
Faut le faire aussi, enfin, faut avoir le culot.
Faut avoir le culot de le faire et aussi le culot d'assumer ce qui se passe derrière, parce que la plupart du temps, je pense que les mecs vont partir, mais il y en a qui vont malheureusement insister et...
En mode sororité, je me suis déjà arrêtée en constatant une situation. Il y avait une nana qui était mineure et deux mecs en voiture. Et j'étais trop loin pour entendre, mais je me suis quand même arrêtée au cas où. Et ils avaient l'air très insistants, donc elle dit non. Ils redisent quelque chose, elle dit non, elle dit non. Et à la fin, elle dit « je suis mineure ». Bah, ça a très bien marché parce qu'ils sont partis. Du coup, j'ai accosté la nana, je dis je m'étais arrêtée au cas où vous ayez besoin d'aide. Elle me dit non, je suis mineure, ils sont partis. Et j'ai demandé si elle était vraiment mineure et c'était le cas. Mais vous avez 18-19 ans, ça vaut le coup de dire que vous êtes mineure, ouais. Visiblement.
Ça m'est déjà arrivé, moi, enfin, quand j'étais plus jeune, parce que je suis plus mineure.
Ah bon,
ça ne se voit pas.
Ah, merci. Du coup, en fait, j'étais en train de promener mon chien. J'avais 13 ans, peut-être. Et il faisait nuit, et il était tôt. Oui. je le fais doucement cette fois-ci. Et en fait, il y a des mecs qui se sont arrêtés à mon niveau et qui m'ont dit « c'est combien ?» J'étais juste en train de promener mon chien, en fait. Enfin, genre, tout de suite, je suis en train de promener mon chien sur le trottoir, je suis forcément une prostituée. Enfin bref, voilà. Et c'est arrivé à ma nièce il n'y a pas longtemps aussi, il faisait jour, et ma nièce a 13 ans à peu près, enfin elle avait 13 ans à ce moment-là, et des mecs qui sont venus à son niveau en me disant « t'as un numéro ?» Pourtant, elle fait... Enfin, bref, c'est... Enfin,
c'est... 13 ans, c'est l'âge moyen à laquelle on reçoit nos premières... Enfin, on est victime de premiers harcèlements de rue.
Ouais, et ça fait écho à ce que j'ai lu, du coup. Enfin, bref, voilà.
Quelque chose qui marche pas trop mal aussi, c'est que moi, je sais que quand, pendant mes études, quand je rentrais de nuit, automatiquement, en fait, j'étais au téléphone, en fait, pendant tout le temps où je marchais, pour avoir quelqu'un, en fait, et je lui disais, en fait, où j'étais, pour au cas où pouvoir que la personne puisse appeler les flics pour moi, quoi. Mais en venir là, à chaque fois qu'on doit rentrer de nuit, c'est chaud, quoi.
C'est une charge mentale de dingue qui ne s'exerce que contre les femmes.
C'est ça.
Naïvement à l'adolescence, pardonnez-moi, j'ai déjà dit que j'étais lesbienne, et bah croyez-le non, ça ne marche pas du tout.
Ah, ça excite.
Ça, pas du tout.
Technique
genre,
testée,
oui,
non
approuvée. T'es tombée sur les mauvais mecs, tu vas voir avec moi, ça va bien se passer.
C'est ça, la meilleure réponse.
Incroyable, j'étais trop naïve.
Bon bah merci les filles, notre émission se termine, c'était Overbooké du mois de juillet, vous êtes sur Radio Campus 87.7, à bientôt.
Salut.
Ciao. Au revoir.
Au revoir.